L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Salut les amis. Au lendemain de la 106e cérémonie de commémoration de l'armistice, j'ai voulu me pencher sur l'état des forêts françaises pendant la Grande Guerre de 14-18. La tant espérée d'air des dairs pour ces anciens poilus, survivants de ce conflit qui a, rappelons-le, entraîné la mort de plus de 18 millions de personnes, dont 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils. Pour rendre hommage à ces victimes et réitérer, comme chaque année, le vœu le plus cher de ne plus jamais connaître cela, ni en France ni ailleurs sur la planète, que les hommes enfin vivent en paix, l'arbre, ce symbole de vie presque éternelle, est un bon médium, et je ne pouvais pas évoquer à nouveau l'un de mes ouvrages de chevet que j'aime bien citer dans L'onde du bois. Le fameux manuel de l'arbre et de l'eau qu'Émile Cardot avait publié une première fois en 1907, puis qui a été augmenté en 1921 par un chapitre dédié spécialement à la guerre. Je vous propose aujourd'hui de vous lire ce chapitre sans en dénaturer les propos, qui d'ailleurs ont la valeur de propos émis 3 ans après l'armistice. Lecture du manuel de l'arbre et de l'eau, 1921. Émile Cardot, conservateur des eaux et forêts, président de la commission des pelouses et forêts du Touring Club de France. Livre 6, La forêt et la guerre. Depuis la première édition de cet ouvrage, un grand événement s'est produit, la guerre de 1914-1918. Elle a fait apparaître un nouveau rôle de la forêt. Celle-ci a été associée à nos efforts, comme aussi à nos sacrifices, pour repousser l'invasion. Il importe peu de mettre en lumière sa participation à la défense nationale. La guerre a, d'autre part, entraîné pour notre domaine forestier de graves dévastations qu'il convient de faire ressortir. De cet exposé se dégageront, je l'espère, pour mes jeunes lecteurs, une nouvelle façon forestière, une nouvelle leçon forestière, des devoirs à remplir, enfin un nouveau et puissant motif d'aimer l'arbre. Il confirmera dans leur esprit cette idée de la fraternité, de l'étroite solidarité qui unissent l'arbre à l'homme, les forêts à nos sociétés humaines. Le rôle de la forêt dans la défense nationale. Rien n'est plus important pour une troupe en campagne que de se dérober aux vues de l'ennemi. Si elle veut attaquer, le couvert de la forêt lui permet de s'approcher des lignes de l'adversaire, sans que sa présence soit soupçonnée et sans être exposée à son tir. Ainsi, l'existence d'un massif forestier dans la zone qui la sépare de l'ennemi lui facilite ses manœuvres, de surprise si importantes à la guerre. Si elle est sur la défensive, la troupe trouvera dans la forêt dont elle occupe la lisière et dont elle a pris soin d'interdire l'accès par des tranchées et abattis d'arbres, un abri précieux pour les communications entre les divers éléments de sa ligne de front ou pour les manœuvres de ses réserves. Cette utilisation des forêts dans les luttes guerrières date de loin. N'est-ce pas déjà sous le couvert de l'immense sylve s'étendant sur les frontières de notre Gaule celtique que les tribus germaniques rassemblaient leurs troupes, leurs chariots de guerre, préparaient et organisaient leurs invasions ? Mais dans les guerres d'autrefois, le rôle des forêts n'avait qu'une importance assez restreinte, en rapport avec la zone peu étendue dans laquelle se déroulait la bataille, et avec les moyens matériels très réduits dont les combattants pouvaient disposer. En ces temps nouveaux, dans cette guerre qui a mis aux prises les plus grandes nations du monde, où chacune des armées en présence comprenait plusieurs millions d'hommes, disposait d'un matériel d'artillerie portant ses obus à plusieurs lieues, d'avions circulant partout dans le ciel, soit comme éclaireurs, soit comme combattants, la zone des batailles comprend une ligne de front s'allongeant sur plusieurs centaines de kilomètres, et une immense étendue à l'arrière, occupés par les corps de réserve, les services d'étape et d'approvisionnement. À cette zone des batailles si prodigieusement élargie, devait correspondre pour la forêt un rôle beaucoup plus important qu'autrefois. C'est encore à l'abri et souvent sous le couvert des massifs boisés que les corps de réserve, les parcs d'artillerie, du matériel de transport, des munitions et approvisionnements, les ambulances temporaires cherchaient à se protéger contre les tirs à longue portée ou contre le regard ou le bombardement des avions. La forêt et la guerre des tranchées. Autrefois aussi, les batailles ne duraient que quelques heures, quelques jours au plus. Les victoires se gagnaient par la manœuvre, le mouvement, avec les jambes des soldats. Dans la guerre de 1914-1918, la prudence germanique a ressuscité une méthode de combat réservée autrefois à l'attaque ou à la défense des forteresses, des villes ou des camps retranchés. Dès la fin de 1914, après notre victoire de la Marne, commença pour les immenses armées en présence sur notre territoire la guerre des tranchées. La forêt devint fournisseur du bois nécessaire à ses demeures de troglodytes où pendant 4 années, hiver et été, nuit et jour, sous la pluie ou la neige, dans la boue ou le froid, sous les rafales presque incessantes des obus, durent s'immobiliser les soldats. Il fallait du bois pour étayer, consolider, réparer les parois de ces couloirs terreux creusés sur des milliers de kilomètres. Il en fallait pour leur faire comme un parquet de rondins et éviter ainsi qu'ils ne se transforment en des cloaques de boue. Il fallait encore du bois pour établir les cagnas, abritant les postes d'écoute, de commandement et de secours aux blessés. Il fallait enfin d'énormes quantités de bois, des bois de feu, pour assurer la cuisson des aliments et préserver du froid les soldats. Et à cet approvisionnement des tranchées s'ajouta encore pour la forêt l'obligation de pourvoir à toutes les installations de l'arrière, campements, ambulances, magasins, parcs d'artillerie, d'aviation, demandèrent tant pour nos armées que pour celles de nos alliés des milliers de mètres cubes de bois. Les forêts martyres. Cette utilisation des forêts dans toute la zone des batailles et en particulier le rôle qui leur était échu comme abri ou rideau protecteur des troupes combattantes appelait naturellement sur elles tous les risques de guerre. Obus des batteries, bombes des avions, balles des fusils et des mitrailleuses, fusées incendiaires, rien ne leur fut épargné, rien, pas même dans les dernières périodes de la guerre, ces jets de gaz asphyxiants qui amenaient le dépérissement de certains peuplements forestiers, comme ils portaient la maladie et la mort parmi nos soldats. Aussi, quel aspect lamentable offre aujourd'hui au regard toutes ces forêts martyres ? Triste, lugubre spectacle contemplé du haut de la colline dénudée, dévêtue elle-même de ses maisons blanches, disparue de la plaine forestière, ce moutonnement des cimes vertes qui se prolongeait avec des teintes adoucies jusqu'à l'horizon lointain. Disparues ces belles colonnades de sapins qui faisaient à la vallée de montagne une parure austère. Il ne reste plus sur de vastes étendues que des squelettes d'arbres essaimés, étendant çà et là leurs moignons, sans rameaux et sans feuilles, ou laissant pendre leurs branches brisées. C'est à plus de 100 000 hectares que l'on a évalué les surfaces forestières complètement détruites, et à plus de 700 000 celles qui ont été partiellement dévastées dans toute cette zone des batailles. Le massacre des vergers. Ce ne sont pas seulement les arbres forestiers qui ont été victimes de la guerre, mais encore les arbres des routes, les arbres en bordure des champs, les ombrages des parcs. L'ennemi, dans une rage et une volonté de destruction qui rappellent les plus tristes périodes de l'humanité, n'a pas craint de s'attaquer à ce qui était l'ornement et la joie de la maison familiale, à l'arbre des jardins et des vergers. C'est avec un étonnement douloureux et des sentiments de colère et d'indignation que, reprenant peu à peu possession des territoires envahis, les troupes alliées victorieuses ont eu le spectacle de tous ces arbres fruitiers coupés à la hache ou à la scie et étendant sur le sol leurs cimes mourantes. La contribution des forêts de l'intérieur. Et ce n'est pas seulement dans la zone envahie que les arbres des forêts ont subi les atteintes de la guerre. dans tous les territoires français, dans les forêts publiques ou privées, parfois sur les alignements des routes et des canaux, des millions d'arbres durent être abattus pour subvenir à l'effroyable consommation de matières ligneuses que nécessitaient les installations des usines de guerre, les parcs d'artillerie et d'aviation, celles des énormes dépôts de matériel et d'approvisionnement destinés aux armées, des camps où se rassemblaient et s'organisaient les armées alliées, des nouvelles voies ferrées établies pour le transport des troupes, etc. Partout dans nos plus belles et plus riches forêts, on vit s'installer des chantiers de bûcherons français, américains, canadiens, anglais, abattant chênes, sapins, hêtres, frênes, érables, ormes, pins, peupliers, et dans l'intérieur ou le voisinage des forêts, s'établir des scieries pour débiter et façonner les bois d'œuvre. Les leçons de la guerre, le devoir forestier. Ce nouveau livre vous a éclairé, jeune lecteur, sur le rôle important des forêts dans la défense d'un pays. Vous garderez dans votre mémoire le nom si souvent mentionné au cours des récits de guerre de toutes celles qui, à l'avant-garde de nos troupes, ont opposé à l'ennemi leur front de verdure, retardé ou entravé ses progrès, puis protégé notre riposte victorieuse. Forêt des Ardennes et des Flandres, sapinières vosgiennes, forêt des Hauts, de Meuse et de Verdun, de l'Argonne et de la Champagne, de l'Artois et du Soissonnais, celles enfin de Villers-Cotterêts, de Compiègne et de Chantilly, dernier rideau protecteur de l'Île-de-France, de Paris. Vous vous souviendrez aussi que si ces forêts ont participé à la défense et à la victoire, elles ont eu leur large part de ruines et de destructions. Un grand devoir s'impose aujourd'hui à la collectivité française, celui de les réparer. Déjà, après les travaux préparatoires de comblement des tranchées et trous d'obus, enlèvement des réseaux de fils de fer, abattage des arbres mutilés, recépage et nettoiement, des travaux de pépinière et de repeuplement ont été entrepris par l'administration forestière. Les associations forestières, les petites sociétés scolaires qui commencent à se reconstituer, pourraient participer à ces travaux. Si chacune de celles-ci prélevait chaque année dans sa pépinière quelques milliers de plants forestiers et qu'elle en fasse l'envoi à une société scolaire sœur ou à une commune de la région dévastée, elle donnerait un exemple de solidarité qui, suivie par d'autres collectivités, pourrait hâter l'œuvre de la reconstitution. Celle-ci ne doit pas se limiter à la zone envahie. Il faut songer aussi à combler les vides faits dans tout notre domaine forestier par les exploitations excessives qu'a imposées la guerre. Forêts publiques et privées doivent reconstituer peu à peu par l'épargne l'énorme capital forestier qui devait profiter à la nation pour le développement de ses industries ou pour des constructions durables et qui a été anéanti pour les besoins passagers de la guerre. L'appauvrissement de notre domaine forestier et l'insuffisance de sa production en bois d'œuvre pour satisfaire à des besoins prodigieusement accrus par les reconstructions des régions dévastées s'est manifesté récemment d'une façon très caractéristique par une hausse extraordinaire du prix des bois. En 1920, on a pu voir un seul de nos plus beaux sapins du Jura ou un de nos plus beaux chênes de futaie du centre de la France couvrant à peine 2 ou 3 ares de terrain, se vendre sur pied en forêt au prix de 4 000 à 5 000 francs. Tout en tenant compte de l'influence de la dépréciation monétaire actuelle sur la formation actuelle de ces prix anormaux, on n'en est pas moins en droit de conclure que les révélations de la guerre nous imposent plus que jamais le devoir de développer notre production de bois d'œuvre. Il faut agrandir nos forêts, les étendre à ces millions de terres incultes qui n'attendent que le travail de l'homme pour produire une nouvelle génération de grands et beaux arbres qui seront, eux aussi, dans l'avenir, des défenseurs de notre territoire, en même temps que des soutiens de la prospérité nationale. C'est ainsi que s'achève cette lecture du 6e livre du manuel de l'arbre pour l'enseignement sylvopastoral dans les écoles et pour continuer à rendre hommage à ces femmes, ces hommes Et maintenant, on pourrait aussi dire ces arbres, ces forêts, mais aussi ces animaux, tiens. Et oui, nombre de chevaux, de chiens, de vaches, de moutons, de cochons, et j'en passe, sont morts au front. Eh bien, morts à la guerre. Je ne peux que vous inciter à acquérir cet ouvrage où vous retrouverez aussi un récit de guerre avec un petit sapin comme protagoniste et une proposition de plan de décoration forestière pour les cimetières du front. Allez, pour finir, je vous invite enfin à aller écouter le dernier podcast de Denis Chessoux sur France Inter avec son émission CO2 Mon Amour qui vous emmènera dans la grande forêt de Verdun, à la rencontre de Guillaume Rouard, technicien ONF, et de Laurence Lénard, naturopathe énergéticienne, qui raconte et ressente cette forêt à la terre gorgée de métaux lourds, de balles, d'obus, de shrapnel et de baïonnettes. À très bientôt, chers amis du plateau de Mille Vaches, qui, rappelons-le d'ailleurs, a été planté initialement par une armée de prisonniers allemands. Et pour finir, cette onde du bois, Raphaël, je te rends le micro pour présenter ton morceau choisi.
Oui Lionel, pour clore cette onde du bois sous le signe du souvenir et de la guerre, je te propose d'effectuer un aller-retour entre Sète, Cuba et la commune de Jonceau-Pigerolles. C'est en effet en face de son célèbre monument aux morts pacifistes, maudite soit la guerre, que la toute nouvelle harmonie intercommunale du plateau de Mille Vaches donnait lundi son premier concert en ouverture du rassemblement pacifiste. J'ai choisi de vous faire écouter un des morceaux interprétés à cette occasion, et il s'agit d'une reprise des Passantes de Georges Brassens, voilà pour Sète, réorchestrée par la Banda des Musicas Municipales de Santiago, voilà pour Cuba. Un peu de soleil dans cette atmosphère automnale parfaitement de saison.